Bonjour, bienvenue dans cette table ronde sur les réalités subjectives. Le monde ne serait-il qu'une représentation? Grande question, je vais commencer par vous lire la présentation de cette table ronde telle qu'elle a été présentée par les Utopiales. Donc se pose une question qui outrepasse celle des modélisations numériques et fait écho à ce vieux mythe platonicien de la caverne que nous avons tous en tête. Que voyons-nous du réel? Accédons-nous à la réalité elle-même, ou plutôt à une représentation qu'en fait notre cerveau? Et les auteurs, les créateurs, ne font-ils pas qu'ajouter une représentation à une autre? Le réel serait-il toujours insoutenable? Alors, pour parler de cette belle question, nous avons autour de cette table ronde, vous le voyez, 5 personnes avec des profils tout à fait différents et complémentaires, puisque nous avons d'abord une vraie spécialiste du sujet qui travaille à l'INSERM, qui dirige le laboratoire Mémoire et Cognition à l'Université Paris-Descartes et qui est une spécialiste de la mémoire. Donc, très logiquement, elle va nous parler de la manière dont le cerveau reconstruit les événements, l'histoire des événements, comment se fait cette reconstruction et cette représentation. Mais nous avons un autre scientifique à côté d'elle qui va sans doute aborder la question sous un angle tout à fait différent, puisqu'il est astrophysicien et spécialiste de cosmologie. Et c'est vrai que notre rapport au monde et à un univers hors de notre portée, qui n'est pas immédiatement accessible à nos sens en général, est un univers dont on construit des représentations finalement. Donc, une autre manière de s'interroger sur le rapport au réel. Nous avons ensuite au milieu Florence Dupré-Latour. Florence Dupré-Latour, elle fait de la bande dessinée. Elle est illustratrice, elle est scénariste. Elle travaille pour les adultes et pour les jeunes. Et je crois savoir qu'elle a une passion aussi pour le jeu de rôle. Et le jeu de rôle, c'est quand même une représentation des interactions, d'un univers qu'il faut prendre très au sérieux d'ailleurs pour qu'il soit intéressant. Et enfin, nous avons 2 auteurs qui sont des auteurs éclectiques et protéiformes, s'ils me permettent d'utiliser des gros mots pour parler d'eux. Donc Catherine Dufour, qui a écrit des romans, des essais, c'est la dame au chapeau. qui a écrit de la science-fiction, qui a écrit de la fantasy et qui écrit des choses très diverses, dans des registres très divers, mais qui aime bien se poser des questions sur la portée de ce qu'elle fait, souvent sous dans des approches qui peuvent être ludiques et sembler peut-être un petit peu désinvoltes. Elle a des projets qui mérite d'être exposé, je pense. Et Francis Berthelot, qui est un homme qui a réussi à mettre plein de vies différentes en une seule vie. C'est tout à fait fascinant. Francis Berthelot, au départ, il est polytechnicien. Il a été dans une vie... Ben, c'est vrai, tu ne peux pas renier. Dans une vie antérieure, il a été biologiste. Ensuite, il a glissé de la biologie vers, toujours au CNRS, la recherche littéraire, ce qui n'est pas un parcours banal, en menant en parallèle une carrière d'auteur brillante et très reconnue, mais dans différents registres, science-fiction, fantastique, des romans parfois un peu inclassables. Et maintenant, Francis Berthelot compose des ballets. Donc, des relations au monde avec des médias très divers et des modes d'expression très divers. Vous voyez qu'ils vont avoir beaucoup de choses à nous dire. J'aimerais bien, si elle l'accepte, que Pascal Piolino commence par nous poser un petit peu cette question de la représentation qui est construite par le cerveau. C'est quoi la mémoire? Comment ça marche? Comment on fabrique nos représentations du rêve, du réel a posteriori?
Merci, merci de m'avoir invité ici. Ça a l'air très agréable et sympathique. Donc, oui, pour parler un peu de mémoire, mais on pourrait le dire de tout système, disons, de perception. Donc, on sait de plus en plus que finalement, nous captons le réel par rapport à une interprétation que nous faisons. Donc déjà, quand on capte l'information, elle n'est pas tout à fait exactement la réalité. C'est une interprétation. Donc déjà, quand on met en mémoire... Eh bien, on met seulement certains éléments. Et donc, au fil du temps, eh bien, en effet, les informations vont se transformer. Et lorsqu'on va avoir accès à des souvenirs, eh bien sûr, on va les réinterpréter, les réorganiser, les réimaginer. Et donc, le grand message de plus en plus des chercheurs, et la neuroimagerie le confirme, c'est que les souvenirs, les représentations de nous-mêmes que nous avons ne sont que des reconstructions, que finalement des pièces de puzzles que l'on va remettre ensemble. Et ce travail de réassemblage va complètement différer en fonction des circonstances dans lesquelles nous avons besoin d'avoir accès à ces représentations. Donc, en plus, le fait qu'un souvenir, c'est pas seulement une représentation comme ça isolée, c'est parce qu'on a besoin d'avoir accès à cette représentation ou elle nous sert à quelque chose. Et donc, ça aussi, cette motivation fait que ça remet une couche encore d'interprétation. Donc, on pourrait dire vraiment que les souvenirs sont de la fiction. En tout cas, c'est notre fiction à nous et elle est personnelle, donc elle nous est très proche. Et comme disait James, finalement, plus on a une intimité et une chaleur avec ses interprétations et ses représentations, et plus elle nous parle de nous, plus elle nous donne l'impression de nous revivre de l'intérieur et donc d'avoir une certaine intimité avec nous-mêmes. Donc, c'est vraiment des mécanismes tout à fait « normaux », entre guillemets. Alors, vous pourriez me dire, mais comment donc faire la part entre les faux souvenirs, les vrais souvenirs, entre les mécanismes qui sont normaux et ceux qui sont dans la pathologie, donc vraiment des patients qui auraient ce qu'on appelle des confabulations. Donc, si vous les interrogez, ils vont vous dire que le week-end dernier, ils ont été sur la Lune et ils en sont persuadés. Donc, est-ce que c'est la même chose? Donc, bien sûr, non, tout est une question de, on va dire, de quantité, de qualité, et que la plupart du temps, lorsque nous reconstruisons un souvenir et que il y a beaucoup de choses de faux, nous avons un autocontrôle qui fait que on va s'interroger sur la valeur, disons, du réel, de notre accès à la représentation. Donc on va finalement critiquer nos souvenirs et essayer de se poser la question de ce qui est vrai, ce qui est faux dans le souvenir auquel j'ai accès. Et donc, on va finalement le modérer, le reconstruire, le reprendre pour essayer qu'il soit un peu plus vrai que ce que l'on pouvait penser. Mais donc, on voit bien que tout cela est vraiment une reconstruction de nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le grand message actuel. Donc on est très proche de la science-fiction, mais elle nous est personnelle.
On va y revenir, on est déjà, il me semble, en train de parler de construction d'identité, mais des représentations, on s'en construit aussi quand on est un scientifique. Et je crois que Jean-Philippe Usan sera d'accord sur le fait que quand on essaie de comprendre le monde, y compris qu'on a l'échelle des galaxies, ce qu'on fabrique, c'est des représentations, là encore. Est-ce que ça a un sens de... Pascal Piolino nous parlait tout à l'heure de distance critique, de la manière dont on censurait certains faux souvenirs parce que on avait des éléments pour douter de la trace qu'on en gardait. Est-ce que ça marche aussi quand on s'interroge sur la cosmologie et sur l'astrologie? Est-ce qu'on a des outils pour détecter des représentations qui n'auraient rien à voir avec... Est-ce que ça existe, le vrai monde, d'abord?
Alors. Je sais pas où faut que je commence, parce que c'est, en fait, là il y a plein de choses. Donc peut-être il faut recommencer même avant la cosmologie, juste peut-être la science, en fait. Je pense que les gens qui adoptent une démarche scientifique font l'hypothèse a priori, même si souvent ils en sont pas conscients, que quelque part il existe une réalité, même si on sait pas ce que c'est, qui est indépendante d'eux. Et que si cette réalité est étudiée par différentes personnes et qu'ils suivent la même démarche, ils vont se mettre en accord sur ce qu'ils arrivent à déduire, que ce soit par une méthode expérimentale ou par une démarche théorique. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quelque part, il y a une sorte de dynamisme collectif, d'une collectivité qui va construire un savoir sur certaines règles. Donc ça c'est peut-être déjà une différence avec l'aspect individuel de la mémoire dont vous parliez juste avant. Ça, c'est la première chose. Et donc, on veut parler de cette réalité, et une condition pour pouvoir parler de cette réalité, c'est de pouvoir interagir avec elle. Si on n'a pas d'interaction avec cette réalité, on ne va rien pouvoir dire. Donc le physicien ou le chimiste ou le biologiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bousculer la réalité et il va voir comment cette réalité répond. Et à partir des réponses de cette réalité, il va essayer d'en construire une représentation. Dans certaines disciplines, quand c'est la physique, c'est en général des représentations mathématiques. Mais il y a des sciences dans lesquelles les représentations ne sont pas des représentations mathématiques. Mais on parle dans ce cas-là d'une construction de modèle, ou alors quand c'est vraiment une représentation mathématique, on parle plutôt de théorie. On pourrait faire, bon, ça serait un grand discours, la différence entre une modèle et une théorie, mais bref, on fait ces représentations-là, et comme vous le savez, toutes ces descriptions, elles sont liées à un certain domaine de validité, elles marchent, mais tous les scientifiques savent que les constructions qu'ils font ne sont pas éternelles, parce que on va faire des nouvelles découvertes, on va faire des nouvelles observations, il va y avoir d'autres théories qui vont être en contradiction, et ces constructions, donc, ne sont valables qu'un temps, elles vont être étendues pour en avoir toujours de, ce qu'on appelle de meilleures, c'est-à-dire des théories ou des modèles qui expliquent de plus en plus de faits. Alors vous voyez, déjà, ça veut dire qu'il faut interagir avec le monde. Et c'est, vous parliez dans l'introduction de comment parler du monde microscopique ou du monde macroscopique, et c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est que moi, je connais très peu de choses sur le cerveau, mais il y a une chose il faudra me dire si j'ai faux, mais ce cerveau nous a permis de développer quelque chose qui est le langage, qui nous permet de communiquer. Et ce langage, en fait, il s'est développé au cours de l'évolution de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine a interagi avec le monde extérieur. Et nous sommes équipés d'un certain nombre d'instruments de mesure. Nous avons nos cinq sens. Nous pouvons toucher, nous pouvons voir, nous pouvons regarder. Et ces instruments de mesure ont des limitations. Notre œil ne voit que certaines couleurs. Et nous avons découvert qu'il existait des couleurs qui ne sont pas accessibles à notre œil, comme l'ultraviolet, les rayons X. Pareil pour notre ouïe, nous avons une certaine bande de fréquences que nous pouvons détecter. Pour notre toucher, vous voyez, si je prends cette table et que je touche cette table, je vais déduire qu'elle est lisse, qu'elle est dure, et si vous faisiez la même expérience que moi, vous seriez d'accord. Et ça, cette description et les mots que je vais employer pour décrire ces objets sont liés finalement à la résolution et à la qualité de mes instruments de mesure naturels qui sont mes sens. Et une grande partie de l'histoire des sciences, ça a été aussi de développer des instruments de mesure qui nous permettaient d'étendre ces sens. On a créé des microscopes, des télescopes. On est capable de regarder l'univers dans différentes couleurs. Et à chaque fois, on a découvert que l'univers était très différent quand on le regardait avec ses sens. Si vous regardiez cette table en microscopie électronique, eh bien, elle ne serait pas lisse et dure. Elle serait complètement vide et rugueuse. Donc là, on arrive au problème que quand on veut décrire le monde à ces échelles-là, les mots du langage ordinaire ne sont plus adaptés parce qu'on est confronté à une réalité qui est tout autre et qui ne fait pas partie de notre sens commun parce qu'on n'a pas grandi dans cet environnement-là. Et ça, je crois que c'est le grand problème dès qu'on veut commencer à parler de cosmologie, de mécanique quantique, par exemple, c'est qu'il n'y a plus de mots et il n'y a plus de mots intuitifs pour des gens qui n'ont pas travaillé sur ce domaine-là. Alors quand vous travaillez, eh bien, vous développez une nouvelle intuition à cet objet-là, avec un langage particulier. Quand c'est la physique fondamentale, c'est souvent avec les mathématiques, et vous développez votre propre intuition, et on est obligé d'en parler avec des mots qui vont prendre un nouveau sens pour nous. Donc si quelqu'un vous parle de force, alors bon, on a tous une intuition de ce que c'est que la force. Si vous parlez de la force à un physicien, il va avoir une description très claire de ce que ça veut dire en termes d'objets mathématiques. Donc ça, il faut voir qu'il y a cette interface qui est l'interface du cerveau et l'interface de nos sens et qui nous limite dans la façon dont on a de parler de notre monde. Et pour aller autour de cette limitation, eh bien, les physiciens se basent principalement sur les mathématiques qui semblent être un langage, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans notre reconstruction du réel. Donc ça, c'est la première partie. Je ne sais pas jusqu'où il faut que j'aille ou s'il faut que je laisse parler un petit peu les autres.
Je pense qu'on reviendra, voilà. Oui, on fait un premier tour de table et puis on va avoir des thématiques qui vont émerger. Alors, je ne sais pas qui veut prendre le relais, mais je proposerais bien à Florence, si elle est d'accord. Florence est l'auteur de Sigis, que je le prononce bien. Et le jeu de rôle, la bande dessinée.
Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la mémoire, parce que je me suis longtemps posé la question, cette question, qu'est-ce qui m'avait fasciné dans la bande dessinée, qui est un médium très particulier, qui a une forme elliptique constante, c'est-à-dire qu'on passe d'une case à une autre en laissant une gouttière vide, et le lecteur va remplir lui-même par son imaginaire tout ce qui n'a pas été dit. Entre les deux cases. Et cette fascination de la bande dessinée j'en avais l'intuition sans pouvoir le formuler, vient de sans doute de problèmes de mémoire qu'on peut tous rencontrer, et de reconstruction mentale. J'avais le sentiment d'avoir dans ma vie, comme tout le monde, de grandes phases vides avec du rien et des éléments qui me semblaient réels et concrets auxquels me rattacher dans ma petite enfance et jusqu'à maintenant. Et j'avais le sentiment que je reconstruisais moi-même, de façon d'ailleurs assez variée, des souvenirs fantasmés, comme on peut le trouver dans le système de la bande dessinée. Donc voilà pour la mémoire et cette fascination que j'ai pu avoir pour ce médium, que je ne comprenais pas. Voilà. Pour en revenir au jeu de rôle, c'est vrai que c'est une pratique qui a eu très très mauvaise presse pendant longtemps. Dans laquelle je me suis jetée à corps perdu, sans doute parce que, comme vous le disiez, le réel me semblait insupportable. C'était assez juste. Mais dans cette pratique très 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 particulière où on invente une histoire imaginaire dans une pièce avec des camarades, on vivait des fictions, hein, des fictions extraordinaires, mais il y avait une réalité des sentiments et une expérience qui se manifestait malgré l'aspect totalement fictif de ces aventures. J'ai vécu des moments extrêmement d'une grande tristesse. J'ai vécu des chagrins. Je suis tombée amoureuse en jouant au jeu de rôle, ce qui me ramène. C'était la seule réalité malgré un univers totalement fictionnel. Voilà pour les jeux de rôle. Alors c'est vrai que c'est assez incarné. C'est pas du tout un discours scientifique ou construit, mais c'est un discours qui se base uniquement sur cette expérience très très particulière des jeux de rôle. Voilà. Après, bon, bien sûr, il y a l'écueil d'y rester. J'ai des amis qui n'en sont jamais sortis et qui ont préféré vivre de façon imaginaire, mais je les comprends. Je les comprends. Ça les empêchait pas d'avoir des expériences réelles, réelles donc ressenties. Voilà.
Bon, de toute façon, la question de la représentation, il me semble que c'est une question très humaine parce que c'est en tant qu'être humain qu'on se pose cette question du sens et comment on le construit. En tout cas, on a des auteurs qui sont des démiurges, puisqu'ils nous inventent des mondes qui sont probablement des représentations du monde. Ils nous inventent... Ah, ça y est, je dois déjà dire des bêtises avant même d'avoir commencé. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous avec vos mots.
Les deux du fond sont des démiurges. Comme le disait Monsieur Usan, effectivement, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Alors Dick, lui, il commençait par le commencement. Il disait « La réalité, c'est tout ce qui reste quand vous ne croyez plus à rien. » Voilà. Et c'est une chose à laquelle il est important de se rattacher parce que, franchement, moi, le titre, la représentation, ça me fait tout de suite penser à Schopenhauer, hein, le monde comme représentation. Et Schopenhauer, pour moi, c'est vraiment un type qui était complètement son. Je le trouve parfaitement détestable. Je parle même pas de l'opinion qu'il avait des femmes, mais globalement sa façon de voir le monde comme une représentation de la volonté, ça a donné naissance à ce grand courant de pensée où certains hommes ont décidé que le monde tel qu'il était ne leur plaisait pas et qu'ils allaient tout remodeler grâce à une volonté de puissance. Et là, je parle d'Hitler et de Staline. Donc considère comme beaucoup mieux et beaucoup plus sain d'esprit de se raccrocher quand même à l'existence d'une certaine réalité préalable. Mais effectivement, c'est une réalité extrêmement fluctuante, surtout dans la mémoire humaine. Et là, je pense à Léonore Fini, c'est une femme peintre, deuxième moitié du XXe siècle, qui avait peint un tableau très beau, il y a un lac avec des gens. Et 10 ans plus tard, il y a un des visiteurs d'une de ses expositions qui est venu la voir en larmes. Il a dit « Mais non, mais ce tableau, il n'est pas comme ça. » Elle dit « Non, il n'est pas comme ça. » « Non, 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 moi je me souviens, je l'ai vu il y a 10 ans, j'ai flashé dessus, c'est trop merveilleux, j'y ai pensé pendant des années, là je le revois. » Et le bonhomme, là, au fond, en fait, avant, il était au premier plan. Et la nana, là, qui se baigne, elle n'avait pas une cape verte, elle était nue. Et ça l'a tellement émue que Léonore Fini lui a refait le tableau qu'avait conservé sa mémoire à partir du tableau original. Et à chaque fois que, par exemple, je revois un film que j'ai vu quand j'étais jeune, dont j'avais gardé un souvenir génial, je m'aperçois que c'est une sombre bouse, je me dis, voilà, c'est comme Léonore Fini, il ne faut pas être triste, c'est ça la mémoire.
Francis, la mémoire est quelque chose de fluctuant, mais vous, quand vous écrivez, vous figez les choses d'un certain point de vue. Une fois que c'est écrit, ça ne bouge plus.
Moi, je ne vais pas répondre à ta question parce que...
Je m'en doutais un peu, remarquez. Avec...
j'ai autre chose à dire, voilà, c'est tout. D'abord, je suis très content que le débat ait été posé sur des bases scientifiques solides parce qu'à partir de ça, je vais pouvoir élucubrer tranquillement et c'est quand même un peu la seule chose qui m'intéresse. Bon, je en tant que... Comment dire ? Dans la classification des caractérologies qu'a fait un élève de Reich, qui s'appelle Alexander Lowen, dans la bioénergie, j'ai une structure schizoïde. C'est-à-dire que j'ai un très mauvais rapport à la réalité. D'une certaine manière, la réalité, je la fuis autant que je peux, je la déteste, c'est pas ma tasse de thé, elle m'emmerde. À partir de ça, je pense que les autres doivent aussi avoir leur point de vue sur la réalité et ils la trouvent pas forcément mieux que ce qu'on leur fait croire. Je prends un exemple. Vous avez l'impression que je suis là. Eh ben, c'est pas vrai. Je ne suis pas là. Et je vais vous le prouver. En ce moment, à Paris, porte de Versailles, du 28 octobre au 1er novembre, se déroule le salon du chocolat. Est-ce que vous croyez que moi, habitant Paris, j'avais vraiment envie de venir aux Utopiales de Nantes alors qu'il y avait le salon du chocolat ? La réponse est non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé mon corps astral à Nantes. Et mon corps physique est actuellement en train de se goberger, de se rouler dans des tonnes de chocolat noir, de plonger dans des piscines de chocolat fondu. Enfin, il prend son pied. Et ce que je viens de vous dire, je vais vous le prouver. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez le roman de Raymond Queneau, Icare. C'est un roman dont le héros s'envole, quitte le roman... Au milieu du roman, il disparaît. Eh bien, moi, le fait que je n'ai envoyé que mon corps astral à Nantes a eu une conséquence directe sur le catalogue des Utopiales de cette année. Si vous l'ouvrez, page 12, vous voyez qu'après Hugo Bellagamba, figure Pierre Bordage. Or, entre Bellagamba et Bordage, il devrait y avoir Berthelot. Et Hugo Bellagamba m'a confirmé ce matin que j'y étais bien. Or, le fait que je n'y sois plus prouve quand même qu'il y a un problème dans la notion même de réalité.
Bon, tu viens de perturber notre mémoire collective et toutes les mémoires individuelles de chacun. Je ne sais pas comment... On va se raconter ton intervention après coup. Mais est-ce que, je vais me tourner vers Pascal, est-ce que Francis est schizoïde ? Est-ce qu'il est dans une démarche de créateur ? Est-ce qu'on a besoin de pouvoir tricher avec sa mémoire, se distancier pour être un créateur ? Quel est le rapport à la création ?
C'est vrai qu'il y a différentes façons d'être créateur, peut-être aussi. Mais une façon, c'est de prendre beaucoup de distance, justement, par rapport à une réalité et donc de se laisser aller à toutes les réalités que l'on veut. Mais en même temps, une autre façon, c'est aussi, au contraire, peut-être de rentrer dans une autre réalité, mais qui serait très ancrée dans ce qui est l'impression très subjective, en fin de compte. Et donc, au lieu d'être très distancié, qui serait de rentrer en soi-même et de revivre vivre les choses, de réapprendre à vivre les choses d'une façon très, on va dire, perceptivo-sensorielle et sans la pensée, en fin de compte. Donc, il y a les deux façons qui font que la créativité, enfin, je le pense, elle peut aller vers voilà, distanciation ou au contraire, complètement adhérer à sa propre réalité intérieure et donc réinterpréter le monde, mais en réapprenant à se l'apprendre vraiment avec la perception très profonde. Donc, enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, je vais laisser peut-être parler les créateurs. Mais ce que l'on voit, enfin, pour reprendre les mécanismes de la mémoire, on voit qu'il y a vraiment deux forces qui coexistent en chacun d'entre nous. C'est le principe qu'on appelle le principe de réalité. Donc, le fait de s'interroger sur ce que je revis ou ce que auquel j'accède, est-ce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, etc. Et puis, ce qu'on appelle le principe de cohérence, c'est-à-dire la représentation que je crée, est-ce qu'elle est compatible avec la représentation que j'ai de moi-même ou du moi-même désiré ou de moi-même fantasmé. Et donc, de toute façon, c'est aussi, il faut que ça aille avec cette représentation. Et donc, je vais repeindre en rose peut-être certains épisodes de ma vie pour qu'ils me soient plus agréables à me représenter ou d'une autre façon. Mais donc on est toujours entre ces deux phases. Donc il y a vraiment ça aussi tout à chacun, pas seulement pour la création. Alors je laisse mes...
Oui, alors si on continue sur l'approche scientifique de la question, il n'y a pas toujours, dans une approche scientifique, cet enjeu énorme qui est la définition de sa propre identité, qui est quand même une question philosophique, intime et personnelle et extrêmement puissante. Il y a des enjeux plus distanciés dans la plupart des approches scientifiques. Les mathématiques elles-mêmes, au-delà d'être un système formel puissant, on ne sait pas vraiment si elles ont un enjeu.
Je peux parler des mathématiques, c'est une autre chose. Mais je pense, avant ça, que ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on commence à étudier quelque chose, un phénomène de la nature qui vous intéresse, on va souvent être attiré par quelque chose qui n'est pas scientifique. On peut avoir des intuitions qui nous viennent de nos croyances, de notre philosophie, de l'art qu'on a aimé, de la poésie qu'on a aimé. Mais à la fin, le travail que l'on va sortir quand vous voyez un article de scientifique, c'est complètement déshumanisé. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que la science, au départ, on part sur des questions qui nous sont importantes parce qu'on ne travaille pas autant sur des sujets si quelque part, elles ne vous excitent pas tous les matins et de se poser la question, parce que c'est beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup d'excitation. Mais à la fin, le travail qui est produit, on a retiré tout l'aspect humain. Et ça, c'est quelque chose qui paraissait à peu près naturel à tout le monde. Mais en fait, récemment, je crois que c'est peut-être aussi pour ça que les scientifiques prennent plus la parole, savoir ce que c'est que de faire de la science. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le résultat de la recherche qui est important, mais c'est aussi la démarche. Parce que dans une vie de scientifique, il y a les très grands scientifiques que vous connaissez. Et puis, il y a plein de scientifiques que vous ne connaissez pas, dont la plupart sont des très bons scientifiques. Et ce qui est important pour quand on se juge sa vie de scientifique et qu'on regarde en arrière, on se dit, tiens, j'ai travaillé 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? On a tous compris des choses, des petites choses, on a amené les pierres. Et finalement, c'est cette trajectoire qu'on a eue depuis les premières questions qu'on se posait quand on était jeune ou adolescent ou étudiant jusqu'à aujourd'hui. Et la façon dont ce travail a changé notre façon de voir le monde. Et ça, je pense que c'est tout à fait similaire d'un artiste ou d'un écrivain, parce qu'en travaillant, vous changez votre relation au monde extérieur et vous allez vous enrichir. Et je pense que, pour moi, en tant que personne, c'est aussi important que les articles que je vais publier, le fait que les gens vont citer mes articles, vont dire que ce que j'ai fait est bien ou intéressant, parce que, quelque part, ça, c'est ma vie de scientifique à moi. Et je pense que les deux sont importants pour avoir une vie épanouie de chercheur. Il faut arriver à avoir les deux, d'une certaine façon.
Je suis très intéressé par ce que tu dis, parce que, en fait, cette déshumanisation, moi, je l'ai vécue, et c'est ce qui m'a conduit à abandonner les sciences. Parce que je trouvais ça insupportable. Parce que je ne trouvais dans la recherche scientifique aucune réponse aux questions essentielles que je me posais.
Mais je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça a beaucoup changé. Quand j'ai commencé à faire de la recherche il y a une vingtaine d'années, c'était exactement comme ça. Et j'ai l'impression que, de plus en plus, ça se réhumanise. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas simplement une création de savoir et que nous sommes pas des machines ou des robots à créer du savoir, mais ce sont des gens qui créent ce savoir. Bien sûr, il y a une méthodologie où à la fin on veut que ce savoir soit reproductible et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il fait que quelque part, ça ne va pas dépendre que celui qui a trouvé ce résultat, ça soit exactement moi ou mon collègue. Mais la façon dont on est arrivé à se poser cette question, de plus en plus les gens en parlent. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette question? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez compris quelque chose? Parce qu'en fait, quand vous prenez les gens qui sont autour de vous, le nombre de gens qui potentiellement sont capables de faire la découverte est très grand. Et il se trouve qu'il n'y a qu'une personne qui fait la découverte. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu du hasard, parce qu'il y a eu une rencontre, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est un événement qui n'est pas un événement scientifique, c'est un événement en général, un événement unique. Vous avez, je sais pas, vous avez lu quelque chose, ensuite vous êtes allé au cinéma et vous êtes sorti, vous vous dites, ah ben tiens. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de résoudre des problèmes alors que je n'étais pas en train de travailler. Et en fait, c'est même ça que j'ai appris au fur et à mesure des gens, des années. C'est-à-dire que pour bien travailler, il faut d'abord lire beaucoup et tout ça. Puis après, il faut laisser son cerveau. Alors ça, peut-être que tu nous expliqueras comment ça marche. Mais travailler tout seul, inconsciemment, pendant qu'on va jouer avec ses enfants, qu'on va au cinéma ou qu'on va faire du sport. Parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Il faut se faire confiance. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous apprend que travailler, c'est être assis en face d'un bureau avec une feuille, un livre, peut-être un ordinateur maintenant. Et puis, on écrit. Et ça, on a l'impression qu'on a commencé ses heures de bureau et on est dans son bureau. Et ça, ça s'appelle travailler. Mais si vous baladez dans un parc à rêver, c'est pas du travail. N'empêche que c'est à ce moment-là que vous résolvez les vrais problèmes. Et ça, c'est aussi important en termes de la façon dont, de la relation qu'on a au travail. Et je pense que c'est un petit peu la même chose qu'un artiste. C'est-à-dire, il y a un moment, il va falloir trouver l'inspiration, il va falloir trouver la clé. Et ça, c'est pas en restant des heures devant un bureau.
Quand on est un scientifique, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres occasions que les utopiales de raconter comment on travaille et comment une idée vous est venue. Parce que dans les publications, en général, on met les résultats, la méthodologie, le protocole, mais le vécu qu'il y a derrière et le fait qu'on est allé avec ses enfants au cinéma et que
mais ça se raconte, de plus en plus. Je pense que il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que les gens parlent de plus en plus d'eux, c'est-à-dire qu'ils acceptent qu'ils sont aussi des êtres humains. C'est ça qui est. Et je pense que c'est bien aussi pour notre rapport à la société. Souvent, moi, quand j'étais petit, on idéalisait les scientifiques. Moi, je suis pas d'une famille de gens qui avaient fait des études. Et clairement, si vous disiez ah, c'est un grand professeur, c'était voilà quelqu'un d'intouchable, un peu qui avait une connaissance qui n'était pas donnée à tout le monde. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est des gens comme les autres qui se posent des questions. Et qui sont amenés à questionner le monde qui les entoure d'une certaine façon. Alors on y arrive peut-être parce que quand on est petit, on est juste bon en maths, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, comme d'autres savent dessiner. Et je pense qu'il faut utiliser les facilités qu'on a dans la vie pour pouvoir questionner le monde qui nous entoure. Et on peut devenir scientifique, mais les gens sont des êtres normaux comme les autres, et ils ont une vie comme les gens. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans le métro, vous ne savez pas si quelqu'un est un scientifique ou un artiste, ou les deux à la fois peut-être, ou aucun des deux. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a des êtres humains qui se posent des questions. Et je pense que si on a cette démarche de vouloir comprendre le monde qui nous entoure, aussi bien la matière, les gens, ou aussi l'environnement imaginaire, quelque part on contribue à cette dynamique, et c'est ça qui est important. C'est là où on a un échange qui est intéressant.
Moi, ça me donne envie de revenir le principe des trous, des absences sur quelque chose dont Florence nous parlait tout à l'heure. Elle nous parlait des cases vides pour lesquelles il fallait reconstruire du lien, que c'était dans le vide qu'il y avait entre les cases qu'on faisait des reconstructions mentales et que c'était ça finalement qui faisait qu'on s'impliquait dans la bande dessinée. C'était tout ce qu'il y avait à reconstruire, tout ce qui n'était pas dit dans les cases elles-mêmes. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, tout à fait. Oui,
donc c'est...
Oui. Oui, après, voilà, je pense qu'on est tous poussés par des fantasmes et par des besoins de fiction. Et comme vous disiez, tout un chacun peut se construire soi-même sa propre fiction, donc sans forcément l'écrire, sans la travailler, malgré soi. Après, le travail d'auteur, il est parfois un peu plus conscient. C'est tout. ou distant. Moi, je me suis intéressée plus récemment à la frontière de la réalité dans un canular qui jouait sur cette frontière très très trouble. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge, qui ment. Et j'ai pris comme support une technologie merveilleuse qui s'appelle Internet et qui m'a fascinée. On parlait beaucoup d'identité tout à l'heure. Bon, après j'ai une sœur jumelle, donc les questions d'identité quand on est jumeaux sont immédiates, toujours. Pour ceux qui ont des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, vous comprendrez ce dont je parle. Mais Internet permettait, comme le jeu de rôle d'ailleurs, de prendre de nombreux pseudonymes, de nombreuses identités, sans que ça soit très très grave finalement. Et j'ai donc exploré à travers une fiction réelle et le support d'Internet cette étrange réalité. J'essayais de donner des corps au réel avec des preuves du réel. Donc vous parliez tout à l'heure de crédibilité. Voilà, ce qui n'est pas la réalité, hein, c'est pas pareil. Voilà. À travers une histoire assez protéiforme, hein, qui était reprise en livre, mais c'était une expérience très très particulière dans laquelle, en tant qu'auteur, j'avais d'abord une mainmise sur mon histoire, et des lecteurs intervenaient à travers des commentaires. Hein, vous connaissez tous le système d'Internet, et prenaient petit à petit le pouvoir sur mon histoire en intervenant dans ma vie. Et devenaient les auteurs de cette histoire. Voilà.
Et tout à l'heure, Catherine Dufour nous a montré le versant obscur de la représentation qu'on se construit, des circonstances dans lesquelles une représentation du monde peut éventuellement essayer de transformer le monde et de le faire d'une manière abominable. Mais est-ce que... Non, je vais le poser autrement. Est-ce que la vérité toute nue, ça a du sens? Est-ce que de toute façon, on n'est pas tout le temps en train d'obliger de construire des représentations pour trouver du sens à une vie, au monde, à ce qu'il y a autour de nous? Et est-ce que finalement, être auteur, c'est pas faire ce qu'on est tous en train de faire tout le temps, essayer de trouver du sens à ce qu'il y a autour de nous? Est-ce que ça vous aide à trouver du sens à votre propre vie, d'en fabriquer d'autres en plus? Ils n'aiment pas mes questions. C'est terrible d'avoir des auteurs en table ronde, je vous dis pas.
Il y a peut-être deux façons d'écrire. Il y a une façon, d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi deux façons de lire. Il y a une façon d'écrire pour donner du sens, parce que c'est évident que le monde en lui-même n'a aucun sens. C'est un amas de couleurs. Et si on ne connaît même pas le nom des couleurs, on voit juste un amas. Et si on ne connaît pas la lettre A, on ne voit rien du tout. Donc oui, tout est représentation. On n'est qu'une forêt de symboles. L'être humain est un animal symbolique. Mais il y a des façons d'être au monde où on va essayer de l'observer, de faire avec, de le comprendre. Et puis ensuite, si possible, de l'améliorer, sauf si on a un mauvais fond. Et là, moi, il y a des livres que je lis qui sont pas des livres forcément très faciles, mais qui m'apportent une meilleure compréhension du réel et qui m'apportent une autre façon de voir le réel. Et puis, il y a les livres aussi que j'écris qui sont... C'est marrant, c'est quand même probablement les livres les moins gays qui sont les plus réalistes, qui essayent le plus de se colter avec la réalité. Et puis, il y a l'autre version où on lit pour s'évader et où on écrit pour s'évader. Et là, en général, ce sont des mondes plus éloignés du réel et souvent pas forcément plus sympathiques. Par exemple, quand je regarde Game of Thrones, je suis pas morte de rire. Mais par contre, ça me fait beaucoup plus voyager. Donc, de toute façon, tout ce qui est artistique a cette double compétence, cette double facette. Ça permet à la fois d'apprivoiser le monde dans lequel on a à vivre, qui est quand même juste à peu près monstrueux, et de s'en évader de temps en temps pour respirer un bon coup.
Francis, t'as envie de respirer à l'extérieur, toi aussi, ou ou seulement de manger du chocolat
C'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on va voir ma page Facebook, on voit comme statut auteur posthume et compositeur virtuel. Alors pourquoi auteur posthume ? Eh bien, parce que j'ai terminé en 2011. Un roman qui s'appelle « Abîme du rêve » et qui vient juste de paraître chez Dystopia, hashtag publicité. Et ce roman était le 9e et dernier d'un cycle qui s'appelle « Le rêve du démiurge ». Et il consistait en fait en une mise en abîme des 8 précédents, en ce sens qu'il raconte l'histoire de l'auteur des 8 précédents, qui a des problèmes avec son éditeur, et qui risque de se voir pilonné dans le pire des cas. Donc il est assez mal. Et les personnages des 8 précédents romans sortent des limbes de la fiction pour venir soit lui prêter main forte s'il a été sympa avec eux, soit pour l'enfoncer s'il ne l'a pas été. Dont il y a les gentils et les méchants, hein, pour faire court. Et le livre se termine relativement mal, puisque il finit par assister médiumniquement au pilonnage, à la destruction de son œuvre, et il en meurt. Bon, il y a un épilogue qui relativise les choses. Mais ayant écrit ça, ayant vécu ma mort et la mort de mon œuvre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux écrire après ça? Rien. Et j'ai arrêté d'écrire. Et comme le flux créatif continuait à vouloir circuler, il a pris un autre terrain, un autre cours, qui est devenu la musique. Et j'ai commencé à raconter des histoires sous forme de ballets écrits sur ordinateur, donc des ballets pour orchestre, avec en temps d'actes, temps de tableaux, avec des personnages, ça raconte une histoire, etc., etc., etc. Et le premier de ces ballets vient de sortir au mois de juillet, hashtag publicité, et tout ça est en vente à la librairie. Et donc, j'ai changé d'identité.
Vous trouverez leurs œuvres à tous.
La fiction que j'ai écrite a changé mon identité. C'est-à-dire d'avoir écrit qu'un auteur était mort a fait que je suis devenu musicien, ce qui n'était pas du tout prévu.
Oui, alors là, pour tous ceux qui ont envie d'écrire, donc je vous informe, faites attention à ce que vous écrivez, parce que ce qu'on écrit arrive. Voilà, moi, il y a des choses que je n'écris pas parce que j'ai juste pas envie que ça arrive. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'écrire un truc. Et pouf, ça m'est arrivé. Donc maintenant, il faut vraiment se méfier de ça. Et il y a comme ça un pouvoir démiurgique créatif ou destructeur des mots qui avait été super bien et qui rejoint aussi les problèmes d'identité. Dans les années 50, il y avait 2 auteurs de SF, même années 30, c'était Catherine Moore et Henry Kuttner, ils étaient mariés. Catherine Moore, elle écrivait bien, mais c'était un peu mollasse, et Henry Kuttner, il écrivait bien, mais c'était un peu sec. À eux deux, ils ont écrit sous le nom de Lewis Padgett, et c'est juste génial. Et en plus, Lewis Padgett a bénéficié d'un traducteur qui s'appelle Boris Vian, autant vous dire que c'est doublement génial. Et il y a une nouvelle qui s'appelle Tous moi l'allèlek Borogov, et où c'est un petit extraterrestre, mais un alien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les mêmes sens, pas la même appréhension du monde, de telle sorte qu'il est carrément impossible de le décrire et de trouver la moindre cohérence à ses actes. D'ailleurs, l'auteur n'essaye même pas. Et il paume le sac de jouets de son gamin. Un équivalent alien du sac de jouets de l'équivalent alien du gamin. C'est-à-dire, en gros, des jouets éducatifs. Et ça arrive sur Terre. Il y a une petite fille qui le récupère et elle va apprendre à grandir avec ses jouets. Par exemple, elle a une abaque, donc vous avez une petite bille que vous devez faire partir d'un point A pour arriver à un point B, et elle a la même, sauf qu'il faut le faire partir d'un point A pour faire arriver au point B un quart d'heure avant. Donc elle apprend comme ça à jouer avec la quatrième dimension, à remonter le temps, tout. Et il tombe sur un poème qui est un poème de Lewis Carroll dans Alice au-delà du miroir, traduit par Boris Vian, qui s'appelle « Tous moi les Borogov ». Et en fait, le petit garçon va voir son père en disant « On est quand même bizarre, la petite fille est totalement contaminée par les jouets aliens, donc on ne comprend plus rien à ce qu'elle dit. » Mais son grand frère, lui, est encore à peu près compréhensible. Et il lit ce poésie, il a l'impression de retrouver des choses qu'il connaît. Il va voir son père et il lui dit « Nous, on est une race bizarre parce qu'une fois qu'on a grandi, on ne fait pas comme les poissons, on ne remonte pas à la mer. » Or, ce poème est en langue alien. Le chemin pour remonter à la mer à partir du moment où on sait manipuler les quatrième et cinquième dimensions. Et donc les deux gamins vont apprendre à manipuler ces dimensions et un jour ils vont disparaître dans un espèce de plop bizarre et ils vont remonter à la mer. Et pour les suivre, leur père va essayer d'auto-détruire ses propres représentations mentales pour se rééduquer avec les jouets de ses enfants afin de réussir à les rejoindre en lisant du Lewis Carroll. Voilà. Donc là, il y a donc un auteur génial soutenu par un traducteur génial qui a réussi à mettre en mots ce truc qui est juste super pas facile, qui est la représentation d'une psyché impossible à représenter. Moi, je m'y suis jamais risquée parce que c'est juste, faut être un génie.
On a le même problème quand on essaie de parler de la singularité, par définition, puisque on essaie de parler de choses qui échappent à la compréhension humaine, quand on essaie de décrire des psychologies extraterrestres, quand on essaie de parler de tout le monde qui n'est pas immédiatement à notre portée, celui qui est dans notre psyché est tout aussi irracontable. C'est très difficile, il me semble, de raconter une expérience de jeu de rôle. Enfin, je pose la question parce que j'ai vécu 2 ans dans un monde massivement multijoueur où j'ai vécu plusieurs vies de chef de guerre, de diplomate. Et à un moment, c'est très frustrant. On peut pas les raconter à des gens. C'est très difficile de raconter les vies qu'on a vécues dans ces univers.
Oui, mais c'est comme raconter un rêve. Quand on raconte un rêve, on ennuie très très vite notre interlocuteur parce que ce sont des choses qui peuvent pas se transmettre. Effectivement.
C'est une frustration parce qu'on s'isole. C'est ça qui nous isole. C'est l'incapacité à mettre en récit l'expérience qu'on a vécue.
Et la différence entre ce que nous donnons au monde de nos possibilités et de ce que nos possibilités dans la fiction. Moi j'avais plein de copains qui étaient des espèces de losers fantastiques et qui devenaient excellents. Ils devenaient vraiment. C'est comme si une sorte des verrous sautaient. Leur vraie personnalité, leur vraie personne se déclarait derrière le masque.
Oui, ça, moi, j'avais vécu ça aussi, où j'avais joué à Donjons et Dragons, et mon personnage était tombé amoureux du personnage d'en face, et c'était réciproque, alors que le vrai garçon derrière, on pouvait particulièrement pas se blairer. C'était particulier comme expérience.
Ce que vous venez de dire toutes les deux, ça me renvoie à une expérience que je vis depuis le début de l'année, et qui est pour moi extrêmement intrigante. Le fait que j'ai abandonné le langage parlé, écrit, enfin surtout écrit, et que je me consacre à la musique qui n'est donc pas faite de mots, aboutit à la chose suivante. Je commence à apprendre la langue des signes parce que je veux communiquer avec mes amis sourds. Et j'ajoute que j'ai rencontré des sourds donc à la fin de l'année dernière et on s'est liés d'amitié et il est devenu indispensable que j'apprenne leur langue. Et ça rejoint l'idée de jeu de rôle quelque part et ça rejoint l'idée d'alien parce que On a fait une soirée sourd-entendant et à un moment j'étais entre 3 sourds et moi je suis tout débutant donc quand je regarde une émission à la télé avec quelqu'un qui traduit en tant que signe je percute rien et là avec ces 3 qui communiquaient entre eux j'avais l'impression d'être dans un épisode du Doctor Who.
Alors c'est très intéressant. Je peux rebondir là-dessus parce qu'il y a une expérience. Alors là, c'est pas des sciences. J'ai bien aimé. Tu dis que tu as vécu plusieurs vies les unes après les autres. Moi j'ai l'impression d'en vivre plusieurs superposées, un peu comme en mécanique quantique, on peut être plusieurs choses en même temps. Et j'ai pas de problème avec ça. Une partie de ma vie, je fais aussi de la musique. Et il y a quelques années, je travaillais avec un de mes amis qui fait de la musique concrète. Il est compositeur et on a fait un projet dans une école. C'était dans une école de CM2 à Bobigny. On a travaillé sur l'année et on avait choisi le thème du son et de la lumière. On a commencé à travailler avec les enfants, aussi bien en sciences qu'en art, essayer de comprendre les différences et similitudes. Et puis, on s'est mis à parler de l'univers. Et puis, un jour, en plaisantant, j'ai dit, mais quelle image est-ce que l'humanité aurait fait de l'univers qui l'entoure si elle était complètement aveugle? C'est-à-dire si nous n'avions pas Dieu du tout, si personne n'avait Dieu. Comment on ferait pour parler de l'univers, puisque la plupart des choses que vous voyez dans l'univers, ce sont des étoiles, ce sont des galaxies, tout ça, c'est avec vos yeux, vos télescopes. Et donc, on s'est amusé à imaginer ce que ferait une humanité aveugle. Et donc, on s'est dit, on ferait exactement ce que l'on fait quand on veut voir des galaxies qui ne sont pas dans le domaine visible. On aurait des télescopes et on transformerait ça dans l'un de nos sens. Et on s'est amusé à transformer des observations astronomiques, des théories physiques en sons. Et on a fait des catalogues de sons et on a composé de la musique qui raconte un voyage dans notre galaxie faite par un astronome aveugle. Alors ça, c'était la première étape. On a créé une musique qui s'appelle Vostok, qui s'écoute dans une cabine, parce qu'en fait, le son, c'est une vibration, elle fait vibrer vos oreilles, mais si vous êtes dans une cabine réfléchissante métallique, elle fait aussi vibrer votre corps. Donc on avait les vibrations dans les oreilles et les vibrations dans votre corps. Donc c'est une expérience un peu multisensorielle, hein, c'est du son spatialisé. Et ça, c'était la première étape. Et il y a quelques années, j'étais à l'Université du Cap, en Afrique du Sud, et j'ai rencontré une astronome costaricaine. Et il se trouve que c'est une astronome aveugle. Et donc, elle m'a raconté son histoire. Elle avait fait des études d'astronomie. Et vers l'âge de 26-27 ans, elle a eu une maladie et elle a perdu l'usage de la vue. Et elle a continué à travailler. Donc, elle a développé des logiciels pour, quand elle a des données, les transformer en son et pouvoir se faire une image, une représentation mentale. Et elle m'a montré comment elle visualisait de façon sonore des courbes et qu'à partir de la ligne mélodique, elle arrivait à faire des calculs. Et on comparait les calculs et elle obtenait des résultats qui étaient exacts. Elle faisait bien sûr tout cela de tête. Et donc, je lui ai fait écouter ce morceau. Et alors, en général, les gens qui ont la vue me disent oui. Alors, c'est la musique concrète, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un peu comme Richard Schaeffer, ce genre de choses. C'est pas très harmonique. C'est des sons qui sont organisés pour créer un environnement. La plupart des gens appellent ça du bruit, mais ça, c'est juste un manque d'éducation. Mais en fait, vous savez, le goût, c'est pas inné. Hein, c'est juste une question. On apprend à voir de toutes les façons. Et je lui ai fait écouter ce morceau. C'était la première fois qu'elle écoutait. Et elle me dit, mais ça me fait penser à telle chose. Et en fait, comme elle avait développé elle-même indépendamment un sens d'écouter des observations et d'utiliser en fait son ouïe d'une façon qui est inhabituelle pour un être humain, elle voyait des choses qu'on y avait mises. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et je me dis, voilà, ça aussi le contact à la réalité, c'est-à-dire c'est l'éducation de nos sens pour pouvoir avoir accès à ce monde extérieur. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas suffisamment, parce que notre vue et notre toucher sont vraiment les deux sens qu'on a éduqués le plus dans notre civilisation, parce qu'on est presque tous voyants. Mais en fait, il serait bien de passer une partie de sa vie les yeux fermés pour essayer d'appréhender le monde qui est autour. Déjà, de parler à des gens sans les regarder, on n'a pas la même appréhension. Le fait que je sois là avec mon corps et tout ça, vous projetez déjà quelque chose. Si on faisait la même conférence complètement dans le noir sans se voir, je suis sûr qu'il passerait autre chose en plus que ce qu'on arrive à en faire passer comme ça. Et ça, c'était, voilà, ça rejoint un petit peu l'expérience que tu décrivais.
Justement, il y a un roman dont j'ai oublié l'auteur, mais vous allez me le dire tout de suite, qui s'appelle Le Monde Aveugle.
Daniel Galouille.
Voilà. Le Monde Aveugle, qui décrit une société, si j'ai bonne mémoire, qui vit sous terre et qui donc est totalement dans les ténèbres et qui se repère par l'écho des sons sur les objets. Donc tout ça, ça va tout à fait dans ce sens.
Il nous reste à peine 5 minutes, mais on a quand même le temps de prendre une ou deux questions qui proviennent de la partie de la salle qui a la chance d'être dans le noir et qui donc vit une expérience beaucoup plus riche que la nôtre. À part que nous, on ne voit rien du tout.
Bonjour, alors merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Moi, j'en suis venue à une remarque, c'est que maintenant, la tendance, c'est ne plus... écrire une aventure, mais c'est l'aventure d'une écriture, je pense que c'est... Et que vous avez montré aussi que l'expérience joue énormément dans cette nouvelle aventure qu'est l'écriture. Merci.
Ben merci pour...
Merci, oui, j'agrée.
Oui, bonjour. Moi, j'ai juste deux remarques, questions. La première remarque, c'est qu'on a commencé cette table ronde en évoquant la mémoire, en fait, et la reconstruction de la réalité qu'elle entraîne. Je voulais juste préciser, je pense que ça commence même avant la mémorisation, mais dès le traitement de l'information, quand on commence à l'encoder. Je pense, par exemple, aux travaux sur les stéréotypes de Michael Duncan. Pour raconter brièvement, en fait, Michael Duncan a diffusé une vidéo où on voit deux hommes discuter, ils coupent le son, il y a un coup d'épaule ambigu, on ne sait pas si c'est de la sympathie ou de l'agression. D'accord ? Sauf ça, aux États-Unis dans les années 70, le stéréotype, c'est que les hommes noirs sont violents. Donc il fait deux vidéos. Une vidéo, c'est deux hommes blancs. Une vidéo, c'est un homme blanc, un homme noir. L'homme noir donnant le coup d'épaule. Il projette la vidéo à des étudiants, soit l'une, soit l'autre. Il demande après aux étudiants, est-ce que c'est un acte violent ou de sympathie ? Le résultat, vous le devinez, quand c'est un homme blanc, il y a deux tiers des étudiants qui pensent que c'est un acte de sympathie, immédiatement après. Et quand c'est un homme noir, il y a les deux tiers des étudiants qui pensent que c'est un acte d'agressivité. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'on prend en compte, notamment au niveau de la mémoire, la dimension culturelle ? Parce qu'il y a un courant qui est en train d'émerger en psychologie qui s'appelle la psychologie interculturelle, qui semble montrer que certains phénomènes psychologiques ont lieu dans un système culturel donné, mais pas dans tous. Je vais juste prendre un exemple, parce qu'il y en aurait d'autres. Vous parliez tout à l'heure du principe de cohérence. Il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle la dissonance cognitive, qui a été étudié en Occident, en France, États-Unis, c'est très bien étayé. La dissonance cognitive, c'est le fait que, quand je constate qu'il y a deux informations, connaissances, comportements contradictoires, je ne suis pas à l'aise, je mets en place des stratégies pour réduire ce malaise. Exemple, je fume, je sais que ce n'est pas bon pour la santé, donc il y a une connaissance qui est contradictoire avec mon action, je mets en place une stratégie pour accepter le fait que je fume en me disant « ma grand-mère est décédée à 90 ans après avoir fumé 10 paquets par jour », etc., etc. Or, on ne l'a pas constaté au Japon. Parce qu'au Japon, en fait, les enfants sont éduqués avec la contradiction. C'est un chercheur qui s'appelle Hank qui dit ça en 92. On a habitué les enfants à fonctionner avec la contradiction. Et donc, du coup, je me posais la question de savoir, est-ce que, sur la mémoire, il y a des travaux, justement, sur des phénomènes qui seraient vrais dans une culture et moins dans d'autres, même si je sais bien qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le culturalisme. Merci.
Oui, alors oui, vous avez tout à fait raison. C'est un peu ce que je disais. On revient sur le tout est une interprétation au départ. Donc bien sûr, ça marche aussi avec dès l'encodage et puis après. Et donc il y a beaucoup d'études qui sont à la frontière entre la psychologie cognitive et la sociologie, par exemple, et qui montrent bien que si on manipule vraiment le stéréotype au départ, bien la construction de la représentation mentale va être complètement différente et même les performances de mémoire vont être complètement différentes. Si je dis à quelqu'un c'est un test pour savoir si vous avez une bonne mémoire ou si je lui dis que c'est un jeu, je vais pas du tout avoir les mêmes performances. Il sera bien meilleur si je lui dis que c'est un jeu, par exemple. Alors il y a eu plein d'expériences là-dessus, et donc on travaille beaucoup en ce moment, notamment chez les âgés, pour voir ce qu'on appelle la menace du stéréotype sur le fait que finalement le fait qu'ils aient l'impression et qu'ils donnent des performances mauvaises et qu'on puisse penser qu'ils vont avoir des problèmes de mémoire qui peuvent dégénérer, serait déjà finalement une fabrication de la société du fait qu'on doit avoir telle performance de mémoire pour penser qu'on est bon, etc. Donc il y a pas mal d'études qui montrent ça et qui montrent des corrélats au niveau cérébral avec tout ce qui est émotionnel, régulation émotionnelle, le stress, etc. Et qui montrent que donc on va moduler tout à fait. Donc il y a eu des études aussi, donc je pense à une des mémoires qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Donc c'est une mémoire très ancienne et elle est très dynamique et vivante, et il y a des périodes de vie qui émergent chez tout à chacun quand on a un certain âge, et on voit que c'est, on appelle le pic de réminiscence. C'est-à-dire c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec l'ancienneté, mais plutôt l'âge que l'on avait quand on a vécu telle ou telle information. Et donc il apparaît que tous les souvenirs qu'on a vécu entre 10 et 30 ans sont beaucoup plus forts, saillants et beaucoup plus résistants à l'oubli que d'autres. Et ça, il y a eu des études qui ont été faites dans différentes cultures, donc en Asie ou autre, et on voit que le pic de réminiscence n'est pas du tout au même âge en fonction de la culture, parce que finalement là aussi ça indique la construction que l'on fait de penser que tels souvenirs sont plus importants que d'autres ou que tels événements sont plus importants que d'autres. Et là c'est tout à fait une interprétation qui n'est pas que personnelle mais qui est aussi celle de l'image de la culture. Donc on voit bien ça, et bon, on voit après des corrélats qui sont cérébraux, et on voit que c'est pas tout à fait en effet les mêmes régions qui suscite ces souvenirs qui sont très importants pour nous, avec des régions cérébrales à la fois impliquées dans ce qu'on appelle la reviviscence vraiment du vrai contexte d'encodage, donc plutôt l'hippocampe, et puis des régions beaucoup plus liées à la narration, aux sémantiques, et qui sont donc plutôt des régions temporales externes ou frontales. Donc oui, il y a vraiment des éléments, mais ça va avec ce courant-là de voir que toute la cognition est vraiment une reconstruction. Alors avec la mémoire, peut-être qu'avant on voulait, comme c'est déjà flou comme on va dire fonction par rapport à par exemple on pourrait penser à la perception, etc. Donc, on avait eu tendance à avoir des règles assez strictes, mais on voit bien qu'en fin de compte, là aussi, on doit appliquer des règles qui tiennent compte des transformations, etc. Et en plus de cette interprétation culturelle dont vous venez parler. Donc, je vous remercie de votre question.
Malheureusement, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Nous les remercions beaucoup. Le débat a été riche. Vous pourrez continuer les discussions, trouver leurs ouvrages à la librairie à côté. Merci beaucoup à tous.